France Culture.
Le journal Faouzi Trita. Bonsoir Faouzi.
Bonsoir Quentin et bonsoir à tous. Après l'échec de la commission mixte paritaire qui a tourné court ce matin, une loi spéciale est en discussion au Parlement en début de semaine. C'est le même scénario que l'an passé, une mesure technique pour continuer à faire fonctionner l'administration. Les mobilisations du monde agricole vont-elles se poursuivre durant les vacances de Noël? Les syndicats laissent planer le doute et ce, malgré de longs échanges des principaux syndicats avec le Premier ministre. C'est une victoire pour Chine et un revers pour l'État français. La plateforme chinoise ne sera pas bloquée. La justice a estimé qu'un blocage serait disproportionné et ce, malgré les scandales. À Moscou, durant 4 heures, Vladimir Poutine a tenu sa grande conférence de presse annuelle. Le maître du Kremlin qui a tenu des propos très durs envers l'Ukraine et ses alliés européens. Et puis dans la bande de Gaza, l'ONU estime désormais que les critères ne sont plus réunis pour qualifier de famine la situation. Une situation qui reste malgré tout critique. Il apparaît désormais très improbable que la France ait un budget d'ici le 31 décembre. Ce matin, la commission mixte paritaire s'est réunie. Les députés et sénateurs qui y siégeaient se sont vite rendus à l'évidence. Les désaccords étaient trop profonds pour aboutir à un compromis. Le scénario qui se profile à présent, c'est le vote d'une loi spéciale. Une loi spéciale qui sera examinée au Parlement lundi et mardi. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Faouzi.
Chef du service politique de la rédaction de France Culture. La commission mixte paritaire qui s'est réunie brièvement ce matin était de toute façon voué à l'échec.
Oui, on peut même se demander s'il y avait une volonté d'aboutir à un accord, tant du côté du gouvernement que de la droite sénatoriale. Le Premier ministre, pour commencer, n'avait aucun intérêt à ce qu'elle aboutisse, car en cas d'accord en CMP, il aurait dû convoquer les deux assemblées pour organiser un vote de confirmation de cet accord. Or, il était impossible de dégager une majorité à l'Assemblée nationale, les socialistes ayant annoncé à l'avance qu'ils ne pourraient pas voter le budget de l'État, contrairement au budget de la Sécurité sociale. Et Sébastien Lecornu se serait retrouvé dans la situation soit de renoncer au budget pour lequel un accord avait été trouvé, soit de recourir à l'article 49.3 pour forcer la main aux députés, ce qu'il ne voulait pas faire. La droite sénatoriale, quant à elle, n'avait pas intérêt, et en réalité pas vraiment d'espoir qu'un accord soit trouvé, car son projet était de contraindre le Premier ministre à valider un budget selon ses vœux, un budget de droite, pour compenser toutes les concessions faites aux socialistes dans le budget de la Sécurité sociale, et ensuite de le forcer à utiliser l'article 49.3, ce qui aurait constitué un risque pour l'avenir de son gouvernement. Chacun savait par conséquent que son objectif politique était inatteignable et s'évertuait depuis plusieurs jours déjà à rejeter sur l'autre la responsabilité d'un échec annoncé, en l'accusant d'intransigeance et de radicalité. Cette commission mixte paritaire ne pouvait pas, ne devait pas aboutir.
Une loi spéciale, on le disait donc, qui sera discutée lundi et mardi dans les deux chambres. Même scénario que l'an passé et même finalité. Voter une mesure technique pour assurer la continuité de l'État.
Oui, la loi spéciale qui devrait être présentée en Conseil des ministres ce week-end est une loi très simple. Comme l'an dernier, elle devrait comporter trois articles. Un premier article qui autorise l'État à continuer de percevoir les impôts sur la base du budget 2025 pour financer l'administration centrale et les collectivités territoriales, et les deux suivants qui autorisent l'État et les organismes de sécurité sociale à emprunter sur les marchés pour se financer, tout ceci permettant d'assurer la continuité de l'État. Mais cette loi spéciale ne remplace pas une loi de finances, qui devra donc être rediscutée à partir du mois de janvier. La difficulté, c'est que compte tenu des antagonismes politiques qu'on a constatés des élections municipales à venir et du fait que le Premier ministre continue à écarter le recours au 49.3, on peut craindre qu'il sera tout aussi difficile de trouver un compromis l'année prochaine qu'en cette fin d'année. Et certains parlementaires spécialistes des finances publiques redoutent que cette loi spéciale dure et qu'on n'ait pas de budget 2026 avant de nombreux mois.
Une autre interrogation concernant les vacances de Noël. Les mobilisations musclées du monde agricole vont-elles se poursuivre? Les rendez-vous ont duré plus longtemps que prévu à Matignon. Des rendez-vous entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les organisations syndicales. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Faouzi.
Des syndicats mobilisés à la fois contre le traité commercial entre l'UE et les pays du Mercosur et les dernières mesures gouvernementales prises autour de la dermatose nodulaire. Alors l'annonce de la Commission du report de la signature de l'accord au 12 janvier dans le meilleur des cas n'a pas franchement convaincu les syndicats agricoles.
C'est vrai, les moins convaincus à la sortie de Matignon tout à l'heure, c'était sans doute la Confédération paysanne, l'une des organisations les plus présentes sur les barrages routiers ces derniers jours dans le sud-ouest, et son porte-parole Stéphane Gallet.
Nous, on est vraiment déçus, même si, je vous le dis encore une fois, il y a eu quelques pistes qui nous ont données, mais on est quand même assez déçus. Il n'y a pas d'avancée vraiment pertinente par rapport à ce qu'on a porté, c'est-à-dire la fin de l'abattage total comme outil de stratégie sanitaire prioritaire.
La fin de l'abattage systématique des animaux sains quand au moins une vache du troupeau a été contaminée par la dermatose nodulaire. La vaccination généralisée des 16 millions de bovins en France. Des options toujours repoussées par le gouvernement, mais défendues également par la coordination rurale. Elle est aussi très mobilisée. Elle refuse d'appeler à la trêve de Noël. Pour le syndicat, le report à mi-janvier de la décision européenne sur l'accord Mercosur n'est pas suffisant. Différence de stratégie donc avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs, eux, appelaient ce midi à lever les barrages. Pierrick Aurel est le président des JA.
Je voudrais être très clair là encore une fois, pendant les fêtes, nous ne nous mobiliserons pas chez jeunes agriculteurs pour la simple et bonne raison qu'on va respecter la trêve de Noël pour nos concitoyens et puis pour être tout à fait transparent avec vous, pour nous aussi parce que on mène des combats qui sont durs, on reste à la manœuvre mais on reste aussi et avant tout des êtres humains. Mais croyez-moi, à la rentrée, on va se revoir et on va continuer à pousser nos objectifs parce que non, le compte n'y est pas.
Et le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, de fixer comme horizon le salon de l'agriculture dans un mois et demi pour un vrai dialogue avec le gouvernement. La première étape, c'est dès ce soir, Sébastien Lecornu qui s'est engagé à envoyer une lettre au syndicat agricole pour détailler ses intentions sur les deux crises qui frappent en ce moment l'agriculture.
Camille Magnard. Voilà qui peut être perçu comme une lourde défaite pour l'État français, tant il en avait fait un symbole. Shein, le géant de l'e-commerce chinois, ne sera pas bloqué. Ainsi en a décidé le tribunal judiciaire de Paris, qui a jugé la mesure disproportionnée. Shein avait provoqué un scandale en hébergeant notamment dans sa partie marketplace des commerçants qui vendaient des poupées sexuelles à l'apparence de fillettes. Bonsoir Valentin Gris.
Bonsoir Fauzi.
Le tribunal de Paris, dans sa décision, a repoussé quasiment toutes les demandes de l'État.
Oui, il a d'abord constaté la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique, d'armes blanches, de médicaments, et reconnu que l'État était bel et bien fondé à agir en justice car Shein a causé un dommage au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique en vigueur depuis l'année dernière. Un dommage, je cite, grave à l'ordre public et à la protection des mineurs. Mais sur le fond, les juges ont surtout salué le retrait rapide de tous les produits et la mesure de suspension de la marketplace prise par l'entreprise elle-même. Ils ont donc débouté Bercy sur ces deux demandes. La plus forte d'abord, soit la suspension de tout le site Shein pendant 3 mois, mesure disproportionnée, vous l'avez dit, qui porterait une atteinte injustifiée au droit et à la liberté d'entreprendre selon eux, mais aussi la demande la plus faible, à savoir le maintien pendant 3 mois de la suspension de la marketplace uniquement. Le tribunal explique que les contrôles faits par Shein ne présentent pas de défauts systémiques, que les produits incriminés ne sont plus en ligne et que leur présence n'était ni récurrente ni massive. Seule injonction faite à la marque donc, mettre en place des contrôles d'âge pour empêcher des mineurs d'accéder de nouveau à des produits à caractère sexuel et Shein va pouvoir cette fois ouvrir ses contrôles, va pouvoir donc, une fois ses contrôles mis en place, rouvrir progressivement sa marketplace.
Les explications signées Valentin Grille. Une autre plateforme problématique pourra continuer aussi à opérer en France alors que l'État avait demandé là aussi son blocage devant la justice, la plateforme australienne Kick qui diffuse des lives d'internautes. Le tribunal de Paris a repoussé l'idée d'un blocage au nom de la liberté d'expression. L'État français avait porté plainte contre Kick et réclamé son blocage dans le pays. À la suite de l'affaire dite Jean Pormanov, le pseudonyme de l'homme de 46 ans mort près de Nice lors d'une diffusion en direct, c'était le 18 août dernier. Raphaël Graven, de son vrai nom, avait été violenté et humilié par deux personnes en direct devant les internautes et ce régulièrement 10 jours avant son décès. Perrier peut toujours utiliser l'appellation prestigieuse d'eau minérale naturelle, une décision du préfet du département du Gard. L'arrêté a été révélé notamment par Radio France. Alors l'arrêté précise tout de même que cette appellation eau naturelle est autorisée uniquement sur 2 de ces forages de Vergès dans le Gard. Perrier, qui appartient au géant Nestlé, est au cœur de scandales au sujet de la qualité de ses eaux. L'entreprise avait admis en effet avoir utilisé par le passé des traitements interdits. L'association Foodwatch, de son côté, évoque une décision incompréhensible. Un ministère a encore fait l'objet d'une cyberattaque. Après celle du très sensible ministère de l'Intérieur la semaine dernière, c'est le ministère des Sports et de la Jeunesse qui a subi une exfiltration de données. Et cette fois-ci, Apolline Garay-Guilhem, des millions de foyers sont concernés.
3,5 millions de foyers français sont concernés par ce vol massif. C'est ce que dit le ministère des Sports dans un communiqué publié cet après-midi. Alors, de quelles données parle-t-on ? Déjà, ce sont les bénéficiaires du pass sport qui sont concernés. Selon le ministère, ce ne sont pas des mots de passe ou des données bancaires qui ont fuité, mais plutôt une très longue liste de noms et d'adresses mail. Dès la détection de l'attaque, des équipes techniques se sont mobilisées pour stopper la fuite d'informations. Actuellement, les foyers concernés sont en train d'être contactés pour recevoir des consignes de sécurité et le ministère des Sports va porter plainte. C'est un épisode qui rappelle évidemment l'attaque d'il y a 8 jours au ministère de l'Intérieur, qualifiée de très grave par Laurent Nunez. Pour le moment, la personne suspectée de cette première attaque, un jeune homme de 22 ans, originaire du Limousin, est toujours en garde à vue.
Les explications signées Apolline Carré-Guilhem. À Angoulême, on va tout de même fêter la BD le mois prochain, du 29 janvier au 1er février 2026. Donc, le Festival international de la BD d'Angoulême est certes annulé, à la suite du boycott de nombreux auteurs et autrices qui rejetaient à la fois les méthodes de l'organisateur 9e Art Plus et la dérive mercantile de l'événement. Mais la partie off, qui se tient chaque année en marge de l'événement, elle est maintenue. Elle sera même plus importante que d'habitude. Bonsoir Pierre Aupert.
Bonsoir.
La mairie d'Angoulême ne pouvait pas, en fait, se passer d'un événement autour de la BD en ce début d'année.
Oui, ce matin, la mairie a confirmé officiellement la tenue d'un événement intitulé Le Grand Off sur les dates donc du Festival international de la bande dessinée. Au programme, des expositions, des spectacles, des débats et évidemment des dédicaces qui prendront place dans le centre-ville d'Angoulême. Au total, 113 projets sont en cours d'étude, dont une cinquantaine sont portés par des collectifs d'autrices et d'auteurs. Côté organisation, pas question de 9e Art Plus, donc c'est un comité composé de professionnels de la bande dessinée qui est à la manœuvre. Collectifs d'auteurs et d'autrices, librairies, lieux culturels, tous se sont portés volontaires pour créer cet événement autour de la BD. Au total, le budget est estimé à 1,25 million d'euros, mais le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, l'assure, ce ne sera pas moins d'1 million d'euros qui seront pris en charge par des financements publics. Un chiffre qui vient s'ajouter aux 500 000 euros d'aide économique décidée par le Grand Angoulême pour les entreprises en difficulté suite à l'annulation du festival. En un mois à peine, le collectif a donc réussi à organiser un événement conséquent. C'est un off démultiplié qui devient un événement à part entière, résume l'illustratrice Julie Gore. Ce grand off s'est également doté d'une charte qui fait écho aux revendications des collectifs d'auteurs. Parmi ces derniers, le collectif Girl Scout, qui avait appelé au boycott du festival. Il va lancer les fêtes interconnectées de la bande dessinée et proposera des échanges autour des violences sexistes et sexuelles, du féminisme ou encore de la précarité. Un événement qui devrait se retrouver en partie au sein du grand off.
Pierre Roper, dans la capitale à présent, il est aussi question de BD et de livres, avec la subvention allouée à 40 librairies indépendantes qui a finalement été votée par le Conseil de Paris. Le vote de cette subvention, on s'en souvient, a d'abord été rejeté au mois de novembre, mais cette fois-ci, il a été voté. Un vote en deux temps, deux scrutins différents, un premier pour 39 librairies et un autre concernant uniquement la librairie Violette & Co. Bonsoir Louise Forbin.
Bonsoir.
C'est la droite parisienne en fait qui a sollicité ce vote dissocié, car depuis plusieurs mois, elle estime que cette librairie féministe vante un ouvrage antisémite.
Il s'agit d'un livre de coloriage pour enfants intitulé « From the river to the sea », de la rivière à la mer en français. Un slogan phare des mobilisations de solidarité avec les Palestiniens que certains interprètent comme un soutien au Hamas. À la suite de cette polémique, des attaques ont ciblé Violette & Co. Laurent Sorel, conseiller de Paris, la France Insoumise, l'a reproché hier à la droite.
Vous avez dessiné une cible littéralement sur Violette & Co. Ils se sont retrouvés avec des tags à l'acide dessinés sur leur vitrine parce que Violette & Co. Elles ont osé vendre un ouvrage pourtant autorisé à la publication.
La droite a de nouveau voté contre, mais la subvention pour Violette & Co a finalement été adoptée. C'est un soulagement pour l'U, co-gérante de la librairie.
On a vraiment cru jusqu'au dernier moment que ça ne passerait pas. Nous, on pense que ce qui dérange réellement la droite, c'est qu'une librairie comme Violette & Co, qui est féministe, lesbienne, LGBT, engagée contre toutes les formes de discrimination, continue à mettre en avant et à proposer des livres qui sont engagés, importants. Et cette affaire démontre aussi toute la nécessité de ces livres.
Le syndicat de la librairie française a dénoncé le choix de la droite de demander un vote dissocié pour la librairie Violette & Co. Guillaume Husson est délégué général du SLF.
c'est très surprenant et c'est assez inquiétant. La librairie est un lieu de pluralité, est un lieu de diversité. C'est encore heureux qu'on puisse présenter des livres qui portent des thèses ou des visions du monde différentes.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, se réjouit, elle, du vote de la subvention. Paris renouvelle son soutien aux librairies indépendantes qui participent à la grande richesse culturelle de notre capitale, écrit l'élu dans un post publié sur le réseau social Blue Sky.
Merci, Louise Forbin. Fin de la grève au musée du Louvre, ou plus exactement, c'est une pause du mouvement. La CGT Culture, la CFDT Culture et Sud Culture avaient déclenché ce mouvement de grève lundi, ce qui avait provoqué la fermeture du musée avant une ouverture partielle mercredi. Les syndicats qui entendaient dénoncer les conditions de travail dégradées, les défaillances techniques ainsi que la vétusté du musée. 18h15 sur France Culture. En Russie, Vladimir Poutine a largement évoqué le conflit en Ukraine lors de sa grande conférence de presse annuelle au Kremlin. Une conférence de presse qui a duré 4 heures. La balle est dans le camp de l'Ukraine et de ses soutiens européens pour négocier la fin de la guerre, a estimé le président russe Vladimir Poutine, qui continue de tenir un discours belliqueux. Sylvain Tronchet, le correspondant de France Culture à Moscou, a suivi cette conférence de presse.
4 ans de guerre et la rhétorique est maintenant bien rodée. Vladimir Poutine maîtrise l'inversion accusatoire. Quand on lui demande s'il se sent responsable des morts en Ukraine sous les bombardements russes, il répond que non, parce qu'il n'a pas déclenché cette guerre. Ce n'est pas nous qui faisons la guerre à l'Ukraine, c'est l'Europe qui nous fait la guerre en utilisant l'Ukraine. Le chef du Kremlin a pourtant plusieurs fois menacé les Européens, mais quand on lui demande s'il y aura d'autres opérations militaires après l'Ukraine, voici sa réponse.
Il n'y aura aucune opération si vous nous traitez avec respect, si vous respectez nos intérêts. Les politiciens occidentaux ont créé cette situation de leurs propres mains et ils continuent de l'aggraver. Ils parlent constamment de se préparer à une guerre contre la Russie. Donc nous prévoyons d'attaquer l'Europe ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie ?
Vladimir Poutine a néanmoins encore une fois menacé toute l'Europe d'un conflit de grande ampleur. Aujourd'hui, si jamais l'UE installait un blocus autour de Kaliningrad, cette enclave russe qui se trouve entre la Lituanie et la Pologne. Le fait est que personne n'a menacé Kaliningrad de blocus. Mais la question, posée par un journaliste de Zvezda, la chaîne de télévision du ministère de la Défense, lui a permis de se positionner dans la situation de l'agressé, maîtrise de l'inversion accusatoire.
Dans la bande de Gaza, la majorité de la population reste confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, mais l'ONU indique que la famine est terminée. Depuis le cessez-le-feu déclaré le 10 octobre dernier, l'ONU explique en fait qu'il y a un meilleur accès pour les livraisons alimentaires, humanitaires et commerciales. Tout en expliquant donc que la situation reste critique avec un accès à l'eau qui est très limité et plus de 96% des terres agricoles de la bande de Gaza qui sont endommagées ou inaccessibles, voire les deux. On comprend donc, Eric Biegala, que les Palestiniens de la bande de Gaza souffrent toujours de la faim.
Bien sûr, le rapport de l'IPC est en fait un indicateur de l'état de malnutrition dont souffre une population. C'est une échelle de gravité qui est divisée en 5 paliers. Le premier décrit une situation normale où tout foyer est en mesure de subvenir aux besoins normaux de toute la maisonnée. Le 5e, le plus grave, décrit une famine, soit une situation où l'on constate des niveaux élevés de malnutrition aiguë allant jusqu'à la mortalité des plus fragiles. L'agence onusienne avait ainsi classé en situation de famine la bande de Gaza en août. Son dernier rapport fait redescendre l'échelle de gravité de la situation alimentaire d'un palier. La bande de Gaza est classée en urgence alimentaire. On y constate des manques alimentaires entraînant une malnutrition aiguë et une mortalité en hausse, même si l'on ne meurt plus de faim au sens littéral du terme à Gaza.
Reste qu'Israël, qui contestait le classement famine de l'été dernier, conteste encore celui d'urgence alimentaire.
Oui, le rapport de l'IPC est une fois de plus délibérément déformé. Il ignore le volume considérable d'aide qui entre dans la bande, écrit sur X un porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, lequel affirme qu'une moyenne de plus de 600 camions d'aide humanitaire pénètrent chaque jour dans l'enclave. 600 camions par jour, c'est ce qui était stipulé noir sur blanc dans l'accord de cessez-le-feu du 10 octobre, mais il s'agissait d'un minimum, 600 camions minimum pour éviter que les Gazaouis ne meurent de faim, et c'est effectivement là où on en est. On ne meurt plus de faim à Gaza, reste que personne n'y mange encore. À sa fin.
À Taïwan, au moins 3 personnes ont été tuées et 5 blessées dans des attaques, notamment au couteau. Ça s'est passé aujourd'hui dans le métro de Taipei. C'est ce qu'a déclaré notamment le responsable des pompiers de la capitale taïwanaise. On ignorait pour le moment le mobile de cette tuerie qui s'est déroulée dans 2 stations du métro. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h. La météo de demain samedi, premier jour des vacances scolaires, avec encore beaucoup coups de pluie dans le sud-est. Prudence, le Gard est d'ailleurs placé en vigilance orange pluie inondation à partir de ce soir 20h. Sinon, dans le reste du pays, c'est des nuages et des averses avec un ciel plus lumineux en Corse. Les minimales qui affichent de 2 à 5 degrés sur la Bretagne ainsi que autour de la frontière belge et sur la plaine d'Alsace. Ailleurs, on attend 5 à 9 degrés, 9 à 13 degrés dans le sud-est. Les maximales affichent une baisse avec 9 à 13 degrés et jusqu'à 13 et même 16 sur l'ouest aquitain ou encore autour de la Méditerranée.